Eh bien, on commence tout de suite par le national. Depuis lundi a commencé l'évacuation d'une partie de la ZAD, soit zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. En janvier, on le rappelle, Édouard Philippe annonçait l'abandon du projet d'aéroport, objet de toutes les contestations, et sommait en même temps les zadistes de quitter le lieu avant le 1er avril, fin de la trêve hivernale. La ZAD, c'est, il faut le rappeler, plus qu'une manifestation militante. Ce sont aussi des terrains agricoles occupés, certains depuis 2009, des personnes qui y vivent, tout un petit monde qui s'invente et réinvente le vivre ensemble dans ce laboratoire à ciel ouvert.
L'occupation est illégale, le ton est militant, mais comme le souligne l'avocate Ainhoa Pascual, le site de Notre-Dame-des-Landes ne relève pas du domaine public, elle appartient au patrimoine privé de l'État.
Pour permettre l'expulsion, il faudrait qu'il y ait une atteinte à la tranquillité, la salubrité ou la sécurité. Et il faudrait également passer par des ordres d'expulsion, ce dont les forces de l'ordre ont décidé de se passer. 2500 gendarmes, 4 véhicules blindés face à environ 300 zadistes. L'évacuation devrait continuer toute la semaine et elle a déjà fait une dizaine de blessés parmi les gendarmes et une trentaine parmi les militants, dont 2 hospitalisés. L'organisation dans les universités continue cette semaine. À Paris d'abord, l'intervention lundi des CRS à la demande du président de la fac de Nanterre, Jean-François Bolobé, a avivé les tensions. Lors d'une assemblée générale hier, près de 600 personnes, étudiants, personnel administratif et enseignants, ont voté pour le blocage et l'occupation reconductible de l'université. Plusieurs sites à Paris 1 et à la Sorbonne sont également bloqués, ainsi qu'à Rennes, Rouen, Orléans, Lille, Nancy, Metz, Bordeaux, Nantes, Limoges, Pau, Strasbourg et Grenoble. À Toulouse et Montpellier, les facs du Mirail et Paul Valéry sont quant à elles complètement à l'arrêt.
À Lyon, enfin, c'est à la fac de Lyon 2 que ça bouge, avec l'occupation et le blocage du site des quais depuis la fin de la semaine dernière. Ce matin, sur le site de Bron, a également lieu un blocage.
Ces mobilisations étudiantes, on le rappelle, protestent contre la loi orientation et réussite des étudiants, ORE, accusés d'instaurer la sélection et l'entrée de l'université. Elles viennent s'ajouter au mouvement de grève de la SNCF qui, vous n'aurez pas manqué de le remarquer, est venu perturber ces dernières semaines et compte bien continuer à perturber le réseau ferroviaire. Aujourd'hui a lieu une manifestation nationale des avocats, magistrats et greffiers contre la loi programmation de la justice.
Malgré les concessions obtenues ces derniers jours par les avocats, la réforme de la justice continue d'inquiéter avec la fusion des tribunaux d'instance avec les tribunaux de grande instance et la suppression du statut de juge d'instance.
On craint aussi dans le milieu les transferts de certains contentieux vers les grands tribunaux ou la grande cour d'appel, ce qui engendrerait un risque de dévitalisation lente de petits tribunaux et des petites cours. La manifestation nationale et unitaire aura lieu à partir de 13h à Paris et partira de la place Dauphine. On essaiera de vous en donner des nouvelles dans un flash info cet après-midi. Au Brésil, à l'international, maintenant au Brésil, Lula a passé ses premières nuits en prison.
Dans l'après-midi du samedi 7 avril, après une messe en hommage à son épouse défunte et un long plaidoyer de 55 minutes, l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a fini par obéir à la justice en se rendant au siège de la police fédérale de Curitiba. 24 heures après l'expiration du délai fixé au vendredi 6 avril à 17h par le juge, il avait été condamné en janvier à purger une peine de 12 ans et un mois de prison pour des faits de corruption qu'il a toujours nié. Cette peine a ensuite été confirmée le 4 avril, et ce à 6 mois d'élection présidentielle dont il était donné le favori.
Les bagarres entre les pros et les anti-Lula auront émaillé les mobilisations ces derniers jours.
Des affrontements emblématiques, des déchirures du pays et des sentiments mêlés suscités par l'opération anticorruption Lava Rato, c'est-à-dire lavage express. La figure de Lula elle-même est l'objet de passions contradictoires. Une vénération mêlée chez beaucoup à de la déception face aux compromissions des années passées à la tête de l'État. Les uns pleurent donc la disgrâce de celui qui est surnommé le père des pauvres. Les autres célèbrent sa chute. Difficile en tout cas de deviner l'impact que ce choc provoquera sur la destinée du pays.
En Birmanie maintenant, le 6 avril, un éditorial du Monde faisait le bilan critique des 2 années passées au pouvoir par le parti d'Aung San Suu Kyi.
Tout à fait. Après des années de résistance digne et courageuse contre la dictature, dont une quinzaine passées assignée à résidence, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, a réussi à arracher à la junte militaire une transition négociée et des élections. Son parti, la Ligue nationale démocratique, a remporté une victoire écrasante aux premières élections libres de l'automne 2015. Ayant été mariée à un Britannique, la Constitution ne l'autorisait pas à briguer la présidence, et elle occupe donc un poste équivalent à celui de Première ministre. Il semble malheureusement qu'Aung San Suu Kyi, maintenant âgée de 72 ans, ait mieux réussi dans l'épreuve de la dissidence que dans l'exercice du pouvoir. Son autorité reste considérablement limitée par les termes de l'accord passé avec les militaires, puisque 25% des sièges du Parlement leur sont réservés, et ils ont gardé tous les leviers de l'appareil sécuritaire.
Le plus grand reproche qui lui est fait à l'étranger est celui de sa passivité face à l'opération de nettoyage ethnique de l'armée birmane ayant chassé les musulmans rohingyas vers le Bangladesh.
Il n'était probablement que peu réaliste pourtant d'attendre d'elle qu'elle puisse empêcher les forces armées de commettre ces violences. Le bilan n'est cependant pas plus brillant dans les domaines où sa marge d'action est plus grande, comme l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, mais aussi la liberté de la presse, qui était pourtant un grand acquis de la transition démocratique. La faute notamment, selon l'éditorial, à un parti trop fermé sur lui-même, dont les hauts postes sont réservés aux anciens compagnons de route d'Aung San Suu Kyi, au détriment des jeunes. C'est d'ailleurs l'un de ses proches qui vient d'être nommé à la présidence. Réputé plus motivé et moins effacé que son prédécesseur, il faut souhaiter à la Birmanie qu'il apporte le nouveau souffle dont la politique du pays a besoin.
On passe maintenant au sujet long.